Marie-France, ses enfants ont 10 ans.
Ouais. Ah, il y a quelque chose de déglingué, hein?
Voilà, quand j'ai appris la nouvelle, parce que c'est une exclusivité de notre service des nouvelles, je pensais que c'était secondaire 5. J'avais dans la tête...
Et encore, Paul, et ben, encore,
non,
c'est complètement
raison.
Fou.
Oui, t'as raison, c'est complètement fou, mais secondaire 5.
Ouais.
Et là, on me dit, non. Ce cinquième année, école primaire.
Ouais.
Wow!
À de sérieuses questions à
se poser. Ça donne froid dans le dos.
Non, vraiment.
Alors, nous allons parler d'abord des délais d'attente pour les médecins spécialistes. Selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 68 % des consultations auprès des médecins spécialistes du Québec sont réalisées à temps, mais c'est bien en deçà des objectifs de 90 % fixés pour les cas urgents.
Ouais.
Et 75 pour les patients jugés moins à risque.
Exactement. Et on a au-delà de 240 000 nombres requêtes en attente pour voir des médecins spécialistes. Et ça, c'est toutes les spécialités. Gastro-entérologue, dermatologue, oncologue, neurologue, ORL, et j'en passe. Et c'est pire dans certaines régions. À Montréal, bien sûr, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches. Tu parlais des chiffres. Il y a une amélioration. C'est que, justement, on a les chiffres à travers le CRDS, le Centre de répartition des demandes de services grâce au guichet unique. On peut maintenant mesurer et savoir qu'il y a des urgences donc, qui vont de A à E. On est classé et on a tous dans notre entourage des cas comme ça de gens qui attendent de manière indue et qui parfois se tannent d'avoir leurs résultats. Je te parlais d'un cas très près de moi, un an pour avoir le rendez-vous avec le spécialiste. Maintenant, l'opération qui doit avoir lieu n'a pas encore eu lieu. Et dans beaucoup de cas, les situations se dégradent, les cas se détériorent, les patients, on parle d'humains, se détériorent considérablement. Je veux juste introduire une petite comparaison. Tu sais qu'en France, il y a un accès aux médecins spécialistes qui fait l'objet d'un palmarès par région et par spécialité. Et c'est pas tout. En 2012, tu sais combien de temps était le délai pour avoir accès à un spécialiste en moyenne?
En 2012, ben à peu près un an. Ah, tu parles-tu en France?
En France?
Ah, ça, je ne sais pas.
13 jours.
Wow.
Et il y a eu une grosse détérioration. En 2017, on était passé à 60 jours, ce qui est considérable, mais compare avec le Québec. 2 mois pour avoir accès à un spécialiste. Et là, on peut se poser des questions par rapport à la situation québécoise. Manque de ressources, manque de médecins spécialistes dans certaines régions. J'entendais la présidente des médecins spécialistes, Diane Francoeur, et je la lisais dans la presse d'ailleurs ce matin, qui disait quasiment que c'était la faute aux patients qui, des fois, ont le droit de refuser jusqu'à 3 fois. Tu sais qu'on t'appelle dans certains cas la veille pour te dire que tu as un rendez-vous.
Oui.
Tu as une vie, tu as un travail.
C'est vrai.
T'es en région, tu peux pas nécessairement t'en venir à l'hôpital pour rencontrer ton médecin, comme si les patients étaient des indolents, des profiteurs.
Mais c'est pas, pas tous les cas, Marie-France. Des fois, t'es appelé à temps, puis il y a des patients comme ça qui, ne se présentent pas.
Exactement. Il y a 10%,
ça bloque le système,
oui,
ça
bloque le système. C'est une des raisons. 10% ne se présentent pas au rendez-vous sans annuler. C'est beaucoup. On dit que la principale cause de renonciation aux soins, c'est les délais d'attente. Mais c'est un cercle vicieux, cette affaire-là. On attend. Il y a un manque de cliniques externes pour les médecins, de temps de médecins, de cliniques externes pour les médecins spécialistes. Il y a un manque d'accès et de temps en prévention, en amont, avec les médecins de famille qui pourraient régler des cas. Mais quand tu n'as pas l'occasion de le voir, ton médecin de famille, ta situation se dégrade, puis tu attends pour un spécialiste. Il y a beaucoup de patients qui sortent du système, qui se tannent, qui vont ailleurs,
qui vont dans le privé.
Pour ceux qui ont les moyens. Mais tout le monde n'a pas des moyens.
Ça coûte cher.
Il y en a qui vont en Ontario.
Oui. Et on a tellement mis l'accent sur le dépistage du cancer colorectal. On nous dit, vous devez aller passer une coloscopie. Et là, évidemment, ça va dépendre des délais et tout ça.
Exactement.
Et c'est important d'aller passer, effectivement, régulièrement, surtout si vous avez un résultat qui est inquiétant.
Oui. Et le
vous allez au privé. Vous allez vous priver de plusieurs centaines de dollars.
Exactement. Il y en a qui vont en Ontario, je le disais, il y en a qui vont à l'étranger. Ça coûte cher, effectivement. Ou alors, ils attendent et il y a vraiment des cas qui empirent. Et là, tu te ramasses à l'urgence. Il y a certainement des cas de décès qu'on ne comptabilise pas.
C'est pas comptabilisé, ça.
C'est dramatique, cette
affaire-là. Ceux et celles qu'on échappe,
bien sûr,
on les comptabilise pas.
Oui, et c'est pas normal. On est dans une société où la santé est le premier poste budgétaire, je le rappelle, où les spécialistes sont hyper bien payés. On s'est habitué à un an d'attente. On est résolu à ces délais-là. On assume que le système est broche à foin, que c'est long, que c'est ça notre système de santé. Est-ce que c'est normal? Non! On devrait pourtant être fiers. On a l'accès gratuit, entre guillemets, partout à travers le Québec, alors qu'on sait que c'est plus ou moins vrai. On le paye par nos impôts et toutes les régions ne sont pas égales en termes d'accès. Or, c'est de plus en plus difficile d'y entrer. Et quand on y entre, oui, on est bien traité. Et en même temps, je te rappelle, les hôpitaux, l'état de décrépitude, ça a été bricolé de réforme en réforme. Alors, notre nouvelle ministre de la Santé, Mme McCann, a dit, quand elle est arrivée en poste, non, je ne ferai pas d'autres réformes. Mais elle va devoir se questionner sur la performance du système. Parce que des attentes comme ça, un accès si long aux spécialistes, ce n'est pas normal.
Mais comme tu l'as dit, une fois arrivé au bout du parcours du tunnel, faut quand même reconnaître que nous avons un système de grande compétence. C'est-à-dire, une fois que tu as réussi à franchir le parcours à obstacles...
Certainement, Paul.
...et tomber dans le système, heureusement, le système marche bien. C'est-à-dire...
Oui, mais il ne faut pas que tu sois trop regardant non plus sur là où tu vas. Compare les nouveaux hôpitaux comme le CHUM et compare des hôpitaux moyens montréalais. C'est pas normal de passer 2-3 nuits dans une urgence avec des civières dans les corridors.
Non, et de te faire donner un congé très, très tôt.
Ouais.
Après avoir été...
Effectivement, on est bien traité pareil.
Oui.
Mais
les congés sont très rapides.
Très.
Très, très rapides.
Très, très,
ah
très.
Oui, à maison.
Exactement.
Bon, alors, Donald Trump ne devrait plus sortir. C'est ça le problème, Marie-France. À chaque fois qu'il sort dans un... et qu'il a des rencontres à l'étranger, il baboune. Il est le bad guy. Celui qui... Comment on disait ça? Le casseur de party.
Ah, vraiment, la baboune.
Il a babouné toute la fin de semaine.
Il a babouné toute la fin de semaine.
Exactement.
Ça a commencé quand il est arrivé, d'ailleurs, en sortant du Air Force One. Il a attaqué Macron dès l'arrivée en disant « L'Europe veut constituer une armée pour se protéger contre les États-Unis, la Russie et la Chine », alors que M. Macron avait émis l'idée que parce que les États-Unis se désinvestissent des traités multilatéraux, peut-être qu'on ne peut plus complètement compter sur eux. Et ensuite, vendredi, il devait aller dans la Marne, à 150 km de Paris, en hélicoptère à Boisbello. Boisbello, en juin 1918, il y avait une bataille contre les Allemands et c'était un régiment américain, le Indian Head, qui a payé un tribut incroyable, 2300 morts. Une bataille, d'ailleurs, dont l'officier Lloyd Williams, à qui on demandait de se retirer parce que ça allait être trop dur, a dit « battre en retraite, aller au diable, on vient à peine d'arriver ». Alors Trump, lui, venait à peine d'arriver, puis comprends-tu, il pleuvait trop. En 1918, il pleuvait de la pluie, des obus, du gaz. Et lui, avec une désinvolture totale, un manque de respect envers ses vétérans, envers les soldats américains, a décidé que non, ça allait le décoiffer, il n'y allait pas. Et puis, lors des cérémonies de commémoration à Paris, on l'a vraiment vu, tu l'as remarqué, boudeur.
Ah, c'est effrayant.
C'est effrayant.
Mais il a eu un petit sourire pour son ami Vladimir.
Oui, puis il souriait au moment solennel et bouleversant. Il n'était pas attentif.
Pas tout.
Et j'ai trouvé que tout ça, toute cette énumération de choses que je viens de te dire, c'est tout à fait symbolique des relations étrangères sous Donald Trump. Il n'était pas présent samedi lors de ce... dimanche lors de ce forum de la paix organisé par Emmanuel Macron, disant que chaque pays s'occupe d'abord de ses problèmes, America first. Depuis son arrivée à la présidence, d'ailleurs, il utilise des méthodes bilatérales pour régler les grands problèmes du monde avec l'Iran, la Corée du Nord, le Mexique. D'ailleurs, il s'est servi du Mexique pour faire levier sur le Canada dans le cas de l'ex-ALENA. Trump se retire de l'ordre traditionnel du monde, dont les États-Unis étaient pourtant les garants. Les accords de Paris, il s'est retiré des accords de Paris, il s'est retiré de l'ALENA, il remet en cause l'OTAN. C'est sûr que c'est pas une rupture totale avec la politique américaine. L'isolationnisme a souvent été présent dans l'histoire américaine, un certain nationalisme. Puis c'est pas le seul pays. Voit l'Angleterre qui se retire de l'Europe unie, donc le Brexit. L'Europe est complètement unie non plus. Mais là, avec Trump, c'est vraiment un discours anti-mondialiste. On met les intérêts avant les valeurs. Donc, pragmatisme, isolationnisme, nationalisme, unilatéralisme, et ça, sans état d'âme. Et Paul, s'il est question d'affaires, il est question d'intérêts nationaux dans toutes ces ententes-là, mais ça prend aussi des valeurs pour être un leader mondial. Et décidément, les valeurs de M. Trump ne vont pas dans ce sens-là. Il en a peut-être, mais elles sont bien cachées et elles ne vont vraiment pas dans le sens du partage avec d'autres nations et de l'intérêt de la bonne marche du monde, parce que pour que les États-Unis aillent bien, il faut aussi que le monde aille bien.
As-tu entendu la remarque de Justin Trudeau, notre premier ministre?
Oui.
As-tu l'entendu quand il a appris que Donald Trump ne voulait pas se déplacer?
Oui.
Au fameux cimetière où les gens ont payé un tribut absolument incroyable, c'est-à-dire ses compatriotes au Bois Bello, parce qu'il a entendu. Et Justin était vite quand même là-dessus et c'est repris partout là, en ce moment. Justin Trudeau a dit Monsieur Trump, vous n'êtes pas allé parce que de la pluie pouvait tomber sur votre tête. Ces gens-là qui ont combattu nos soldats en mai 1918, eux, recevaient des balles sur la tête.
Exactement.
En tout cas, c'est extrême, mais en tout cas.
Oui. Et on les voyait tous. Et sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu en fin de semaine, suite à cette gaffe calculée, enfin, je ne saurais trop dire de la part de Trump, des images, plein d'images de Barack Obama dans toutes sortes de circonstances, sous la pluie, ont envahi les réseaux sociaux. C'était de bonne guerre.
Merci Marie-France. À demain.
À demain.